Bonjour à toutes et à tous. Alors, le marché immobilier américain, après une période assez mouvementée, on dirait qu'il retrouve un peu de stabilité pour 2025.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a pas mal bougé. Et pour les investisseurs qui cherchent à diversifier un peu leur patrimoine, les États-Unis restent une option intéressante. Surtout quand on compare à l'Europe parfois.
Exactement. Et cette stabilisation, justement, ça ouvre peut-être de nouvelles perspectives. Alors aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur deux poids lourds, la Floride et le Texas.
C'est ça. On a regardé pas mal de sources qui analysent un peu tout. La fiscalité, bien sûr, les rendements possibles, la démographie, ça bouge beaucoup là-bas. Et puis, les risques aussi, il ne faut pas les oublier.
Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer les plus et les moins de chaque État pour aider, disons, à y voir plus clair et à bâtir une stratégie d'investissement solide outre-Atlantique, parce que ce sont vraiment deux profils différents, hein.
Complètement. Floride ou Texas pour 2025? C'est la question. On va essayer d'y répondre ensemble.
Allez, commençons par la Floride, le fameux Sunshine State, souvent idéalisé, hein.
Ouais, l'image d'Épinal. Mais les chiffres sont là, hein. Niveau démographie, c'est assez impressionnant. C'est l'État qui a eu la plus forte croissance aux US entre 2020 et 2024. On parle de plus 8,2%.
Plus de 8%, c'est énorme. Ça fait combien de personnes par an, à peu près?
Presque 470 000 nouveaux arrivants chaque année. C'est considérable, oui.
Et qu'est-ce qui les attire comme ça? Le soleil seulement?
Pas seulement, non. Les sources pointent un climat des affaires plutôt favorable, une certaine qualité de vie perçue. Et puis, l'argument massue, il faut le dire, zéro impôt sur le revenu des particuliers. Ça pèse lourd.
Ah oui, ça on imagine. Et des villes comme Miami, Orlando, Tampa, elles explosent.
Elles sont en plein boom, oui. Très dynamique. Mais tout ça, ça a un coût, évidemment.
Justement, le prix de l'immobilier, ça donne quoi en Floride?
C'est plus cher qu'au Texas. Le prix médian, il tourne autour de 290 000 dollars, enfin un peu moins, 289 800 pour être précis. C'est à peu près 50 000 dollars de plus qu'au Texas.
50 000 dollars d'écart quand même. Pourquoi cette différence? La demande, le tourisme?
C'est un mélange de tout ça, oui. Forte demande, l'attrait des côtes, le tourisme, ça tient les prix vers le haut. Et il y a un autre coup qui fait mal en Floride.
Ah, j'allais y venir. L'assurance habitation. Les analyses qu'on a vues sont assez alarmantes là-dessus.
Oui, c'est le point noir. La moyenne annuelle, c'est presque 11 000 dollars. C'est énorme. Presque 4 fois la moyenne nationale.
11 000 dollars par an,
Oui, presque.
juste pour l'assurance. C'est pas un détail, ça.
Non, c'est pas un détail du tout. C'est un facteur structurel majeur. C'est directement lié au risque climatique, les ouragans surtout. Et ça plombe la rentabilité nette. Vraiment. On y reviendra, mais il faut absolument l'avoir en tête dès le départ.
C'est noté, très important. Et l'économie floridienne, elle repose sur quoi principalement?
Elle est assez variée. Le tourisme, bien sûr, c'est un gros morceau, mais aussi l'aéronautique, la logistique, les services financiers. C'est diversifié.
Mais, il y a un mais.
Mais disons qu'elle reste quand même sensible aux cycles économiques, nationaux ou internationaux. Heureusement, la démographie galopante assure une demande locative qui reste forte, quoi qu'il arrive ou presque.
D'accord. Bon, passons au Texas. L'autre géant, souvent présenté comme plus abordable.
C'est ça, l'alternative, plus accessible financièrement. Et les chiffres le confirment. Le prix médian d'un bien, c'est autour de 241 000 dollars, nettement moins cher.
Et le coût de la vie en général aussi.
Oui, il est inférieur à celui de la Floride, d'environ 8% selon les sources. Ça attire aussi bien les particuliers que les entreprises, évidemment.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces prix plus bas, la croissance démographique est aussi très forte au Texas, pas autant qu'en Floride, mais quand même, plus 7% entre 2020 et 2024.
C'est énorme aussi, oui. Ça s'explique beaucoup par les relocalisations d'entreprises. Des boîtes qui quittent la Californie ou le Nord-Est, des régions beaucoup plus chères.
Elles cherchent quoi exactement? Moins d'impôts ou moins de règles?
Exactement. Un environnement fiscal plus doux, moins de régulation, un coût de la vie plus bas pour leurs employés. Et ça crée un appel d'air énorme pour l'immobilier.
Et l'économie texane alors? On pense souvent pétrole, mais c'est plus que ça, j'imagine.
Ah oui, largement. Le pétrole et l'énergie, ça reste important, bien sûr. Mais la tech explose, notamment à Austin, avec Silicon Hills. Il y a aussi l'agriculture, l'industrie, les services. C'est très diversifié et plutôt résilient.
On parle souvent du quadrilatère texan.
Oui, Dallas, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio. C'est là que ça se passe économiquement parlant. Ça bouillonne d'activité.
Mais.
Parce qu'il y a souvent un mais. Les sources pointent du doigt un inconvénient majeur au Texas. Les impôts fonciers. Les property taxes.
Exactement. C'est le revers de la médaille fiscale texane. Si la Floride a ses assurances hors de prix, le Texas a ses property taxes élevées. Très élevées même.
Élevées comment? On a des chiffres?
En moyenne, on est à 1,63% de la valeur estimée du bien chaque année.
Contre seulement 0,91% en Floride. La différence est substantielle.
1,63% contre 0,91%, oui, c'est pas négligeable du tout. Et ça peut être encore plus dans les grandes villes.
Ah oui. Dans des comtés comme Harris à Houston, Willard à Dallas, ça peut dépasser les 2% facilement.
Donc concrètement, sur une maison à 300 000 dollars, ça fait une différence de quoi? Plus de 2000 dollars par an par rapport à la Floride, rien que sur cet impôt. C'est ça. Plus de 2100 dollars même. C'est un impact direct sur la rentabilité nette. C'est vraiment le point clé de comparaison fiscale entre les deux.
Alors, parlons fiscalité plus globalement. Comment ça se compare pas à pas? Déjà, au niveau fédéral, il y a des choses à savoir. Hein.
Oui, au niveau fédéral, la base est la même partout aux US. Pas d'impôt sur la fortune immobilière comme en France, par exemple. L'imposition se fait sur les revenus locatifs et sur la plus-value quand on revend.
Et il y a des déductions intéressantes pour les investisseurs, même étrangers?
Tout à fait. Le gros avantage, c'est l'amortissement comptable. Pour un bien résidentiel, on peut amortir la valeur du bâtiment, pas le terrain, sur 27 ans et demi.
C'est-à-dire qu'on déduit une partie de la valeur chaque année des revenus imposables.
Exactement. Même s'il n'y a pas de sortie d'argent VL, c'est un avantage fiscal majeur. Et puis, on déduit aussi les intérêts d'emprunt, les frais de gestion, les assurances, les fameuses property taxes locales, les travaux d'entretien. Tout ça, c'est déductible au fédéral. Partout pareil.
D'accord, ça c'est la base commune. Alors, où est-ce que ça coince, où ça avantage entre Floride et Texas, au niveau de l'État, cette fois?
Ben, la différence fondamentale, c'est l'impôt sur le revenu des particuliers au niveau de l'État. La Floride?
Zéro, nada.
Zéro, exactement. Et ça, c'est énorme. Surtout si on a des revenus locatifs importants ou si on envisage d'y résider un jour. Zéro impôt sur le revenu, plus des property taxes modérées à 0,91% en moyenne, le cocktail fiscal est très très attractif.
Les sources parlent aussi du Homestead Exemption en Floride. C'est quoi ce truc?
Alors ça, c'est une protection pour la résidence principale des résidents floridiens. Ça réduit la base imposable de leur maison, donc ça baisse leur property taxes. Et il y a aussi le Save Our Homes Cap qui limite la hausse annuelle de cette valeur imposable à 3%. C'est bien pour la visibilité.
Mais ça ne concerne pas les investisseurs locatifs non résidents, j'imagine?
En général, non. C'est vraiment pour la résidence principale. Et attention, en Floride, il y a aussi une petite taxe sur les transferts immobiliers et une taxe sur les locations de courte durée, moins de 6 mois. Faut le savoir.
D'accord. Et le Texas, alors? Il a aussi cet avantage du zéro impôt sur le revenu?
Oui. Le Texas fait partie de ce club très fermé d'États sans impôt sur le revenu des particuliers. C'est aussi pour ça qu'il attire autant.
Mais
comme on l'a dit, il compense ça par des property taxes parmi les plus élevés du pays. C'est un choix politique. Financer les services locaux, surtout les écoles, via l'impôt foncier plutôt que l'impôt sur le revenu.
Donc, si on résume l'aspect fiscal, pour un investisseur, c'est quoi le calcul?
Si l'objectif numéro un, c'est vraiment d'optimiser la fiscalité globale, surtout si on a de gros revenus ou un gros patrimoine, et qu'on vise le long terme, voire une installation un jour.
La Floride marque des points.
La Floride a un avantage certain, oui. Grâce à cette combinaison zéro impôt sur le revenu et property taxes modérés. L'économie d'impôt peut être vraiment significative sur la durée.
Mais le Texas n'est pas hors course pour autant.
Ah non, pas du tout. Si la priorité c'est le cash flow, l'argent qui rentre tous les mois ou tous les trimestres.
Même avec les taxes élevées.
Oui, même avec ces taxes. Pourquoi? Parce que si on achète moins cher et qu'on arrive à louer à un bon prix, le rendement locatif brut peut être assez élevé pour absorber ces property taxes et quand même laisser un cash flow net plus intéressant qu'en Floride où l'assurance coûte une fortune. C'est une stratégie plus axée sur le rendement immédiat, quoi.
Justement, parlons chiffres, parlons rentabilité. Le marché a été fou après le Covid. C'est calmé maintenant.
Oui, ça s'est bien calmé. On n'est plus sur les plus 26% par an en Floride ou plus 22% au Texas comme en 2021. Fini la folie.
Ouf. Et pour 2025, on s'attend à quoi?
Les prévisions sont beaucoup plus sages. On parle d'une appréciation autour de plus 2,1% en Floride et plus 2,8% au Texas. C'est un rythme de croisière beaucoup plus normal, plus sain.
Et les rendements locatifs? Le Texas a l'avantage sur le potier, avec des prix plus bas.
Pour le rendement brut, oui, c'est-à-dire le loyer annuel divisé par le prix d'achat. Au Texas, on voit souvent du 6 à 8% brut. En Floride, c'est plutôt 5 à 6%, c'est mécanique. Moins cher à l'achat, meilleur rendement brut à loyer égal.
Mais vous insistiez tout à l'heure sur le rendement net. C'est là que la Floride souffre avec son assurance FOCI.
Exactement. Reprenons notre exemple. 11 000 $ d'assurance par an en Floride, contre peut-être 2 500 au Texas. La différence, 8 500 $. Sur un bien à 300 000, ça représente presque 3 % de rendement net qui s'envole.
3 %, c'est énorme.
C'est considérable, oui. Ce seul poste de dépense peut complètement changer la donne quand on calcule le net.
Donc si on met tout bout à bout, assurance, property taxes, les frais de gestion, on compte combien d'ailleurs?
En général, il faut compter entre 8 et 10% du loyer pour une bonne agence de gestion locale.
D'accord. Plus les provisions pour quand le logement est vide et pour l'entretien. Au final, le net, ça donne quoi? Floride versus Texas.
Ben, en généralisant un peu, parce que chaque bien est différent, bien sûr. Mais pour de la location longue durée classique, le Texas a souvent l'avantage sur le rendement net. On peut viser du 4 à 6% net réel.
Et la Floride?
En Floride, une fois qu'on a payé la grosse assurance et le reste, on tombe plus souvent entre 3 et 4% net. La différence n'est pas négligeable.
Mais est-ce qu'il y a des cas où la Floride s'en sort mieux quand même? Des niches spécifiques?
Oui, bien sûr. La Floride, c'est la reine de la location saisonnière, la location courte durée. Avec le tourisme, il y a un potentiel énorme.
Ah oui?
On peut atteindre quel rendement?
Dans certaines zones très demandées, on peut voir des rendements bruts de 12, 15%, parfois même plus.
Mais attention.
Oui. Quoi?
C'est beaucoup plus de travail en gestion, c'est plus irrégulier comme revenu, et surtout, il faut faire très attention aux règles locales. De plus en plus de villes mettent des restrictions, des taxes spéciales, des licences obligatoires. C'est pas si simple.
Ok, donc la Floride pour le saisonnier, si on est prêt à gérer ça. Et le Texas, c'est plutôt le long terme classique sur...
C'est ça. Plus stable, moins de gestion au quotidien. C'est bien pour ceux qui cherchent un revenu régulier, plus prévisible. Et au Texas, il y a aussi des niches intéressantes. Le logement étudiant près des grosses universités, comme à Austin ou Houston.
Ou pour les jeunes qui arrivent pour le boulot.
Exactement. Logement pour jeunes actifs dans les centres-villes qui se développent. Et en Floride, avec la population plus âgée, le marché du senior housing, l'immobilier pour seniors, est aussi une piste à regarder.
Au-delà des chiffres de rendement, il y a d'autres coûts cachés ou risques à bien identifier, en Floride par exemple.
En Floride, en plus de l'assurance et des ouragans, il faut être hyper vigilant sur les flood zones, les zones inondables. Ça veut dire assurance inondation obligatoire, souvent chère, et ça peut compliquer la revente.
Et vous parliez des HOA?
Oui, les Homeowners Associations, très très courantes dans les lotissements, les copropriétés là-bas. Et ça peut être un vrai casse-tête.
Pourquoi? Elles imposent quoi?
Des règles parfois très strictes sur qui peut louer, comment entretenir le jardin, la couleur des volets, des cotisations qui peuvent être élevées. Il faut absolument lire le règlement de la HOA avant d'acheter, sinon on peut avoir de mauvaises surprises.
D'accord. Vigilance sur les HOA en Floride. Et au Texas, quels sont les pièges?
C'est différent. On peut avoir des soucis avec la vétusté de certaines infrastructures, comme le réseau électrique. On l'a vu lors des vagues de froid ou de chaud extrême. Ça peut faire grimper la facture d'énergie ou causer des coupures.
Et autre chose?
La réglementation locale, qui peut varier d'une ville à l'autre. Et puis, un point super important pour la valeur à long terme, surtout pour les maisons, la qualité du school district, le district scolaire. C'est un critère majeur pour les familles.
Ah oui, un bon quartier scolaire, ça fait grimper la valeur.
Carrément, ça peut faire une grosse différence sur le prix et la facilité de revente ou de location à des familles. Faut bien se renseigner là-dessus.
Ces deux États attirent beaucoup de monde des autres régions des États-Unis, on l'a dit. Cette migration interne, c'est un moteur clé?
Ah oui, fondamental. Ce mouvement vers la Sun Belt, la ceinture du soleil, c'est une tendance lourde. Des gens qui quittent le Nord-Est, la Californie, pour le soleil, le coût de la vie, le boulot. Ça assure une demande locative de base très solide.
Et le type de personnes qui arrivent, c'est les mêmes en Floride et au Texas?
Pas tout à fait. C'est une nuance intéressante. La Floride attire pas mal de retraités, mais aussi des gens plus aisés en moyenne. Le revenu médian y est plus élevé que la moyenne nationale.
Ce qui veut dire une demande pour des biens plutôt premium?
Oui, plutôt haut de gamme ou très bien situés. L'avantage, c'est que ça assure aussi une certaine solvabilité des locataires.
Et le Texas, lui, attire qui?
C'est plus mélangé. Beaucoup de jeunes actifs, de familles, qui suivent les entreprises qui déménagent. Du coup, la demande est plus large. Ça va du petit appart en ville à la grande maison en banlieue.
Ça se voit aussi dans l'âge moyen de la population, hein?
Oui, très nettement. La Floride est plus âgée, âge médian autour de 42 ans et demi, plus de 20% de 65 ans et plus. D'où les opportunités pour le logement senior.
Alors que le Texas ?
Beaucoup plus jeune. Âge médian sous les 35 ans, s'attire la demande pour les logements familiaux, les écoles, les crèches, tout ce qui va avec.
Et la qualité de vie ? Bon, c'est subjectif. Mais qu'est-ce qui ressort ?
C'est toujours un équilibre. Floride, le climat, les plages, une certaine ambiance vacances, beaucoup de loisirs. Mais c'est plus cher et il y a les risques climatiques.
Et le Texas ?
Le dynamisme économique, le boulot, le pouvoir d'achat immobilier meilleur.
C'est ça. Mais un climat parfois plus rude, des villes très étalées où la voiture est reine. C'est un autre style de vie.
Un mot sur les infrastructures, transport, Internet. La Floride essaye de développer un peu les transports en commun. Il y a le train Brightline entre Miami et Orlando, par exemple. Ça peut être un plus pour les biens près des gares. Le Texas, c'est massivement la voiture, avec des autoroutes partout, mais souvent bouchées.
Et Internet ?
En général, dans les zones urbaines des deux États, la connexion est bonne. Pas trop de soucis là-dessus. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, pour quel profil d'investisseur chaque État s'offre ?
Alors, la Floride, ça semble être pour celui ou celle qui cherche avant tout la valorisation de son bien sur le long terme, qui est prêt à accepter des coûts plus élevés au départ et en fonctionnement, l'achat, l'assurance, et qui voit l'avantage fiscal global comme une priorité. C'est un peu plus patrimonial, peut-être moins sur le cash flow immédiat, c'est ça ?
C'est une bonne synthèse, oui. Et le Texas, du coup, c'est l'option plus pragmatique, orientée cash flow. Pour l'investisseur qui veut un rendement net correct tous les mois, même s'il faut payer plus d'impôts fonciers. Le ticket d'entrée est moins cher, l'économie tourne bien, c'est un bon équilibre rendement-risque pour générer des revenus.
Quels seraient les derniers conseils, les pièges ultimes à éviter en 2025 ?
Pour la Floride, je répète, mais ne jamais sous-estimer l'assurance, coût et disponibilité, vérifier les zones inondables et éplucher les règlements des HOA. Vraiment.
Et pour le Texas ?
Bien calculer l'impact des property taxes et anticiper leur hausse possible. Penser aux coûts d'énergie liés au climat. Et si on vise les familles, analyser la qualité du district scolaire. C'est crucial.
Est-ce que ça aurait du sens de panacher, d'investir un peu dans les deux ?
C'est une stratégie intéressante, oui. Certaines analyses le suggèrent. On pourrait chercher la plus-value et l'optimisation fiscale en Floride sur un bien et le cash flow au Texas sur un autre. Ça permet de jouer sur les deux tableaux et de diversifier les risques aussi.
Mais dans tous les cas, le choix précis de la ville, du quartier, reste primordial.
Ah, ça c'est indispensable. On ne peut pas acheter un État. On achète un bien précis dans un marché local précis. Il faut une analyse fine sur place. Et surtout, bien s'entourer.
De professionnels locaux.
Oui, agents immobiliers, gestionnaires locatifs, un comptable qui connaît bien la fiscalité US pour les étrangers, peut-être un avocat. C'est essentiel pour éviter les erreurs qui coûtent cher.
Bon, pour conclure, on voit bien que la Floride et le Texas offrent toutes les deux de belles opportunités en 2025. Mais elles ne répondent pas aux mêmes objectifs. L'une pour la croissance du capital et l'avantage fiscal, l'autre pour le rendement et le cash flow.
Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée qui dépasse un peu les chiffres. Investir dans l'immobilier, surtout loin de chez soi, ce n'est pas juste une ligne dans un fichier Excel.
C'est vrai, il y a la gestion au quotidien, l'interaction avec un environnement qu'on connaît moins bien, les risques spécifiques auxquels on est plus ou moins sensible.
Voilà, c'est aussi une question de confort personnel face à ces différents aspects.
C'est une excellente remarque pour finir. La question à se poser, peut-être, c'est, au-delà des ratios financiers, quel environnement, que ce soit le climat, la fiscalité, l'économie ou même la culture locale, résonne le mieux ? Non seulement avec un portefeuille d'investissement, mais aussi avec une vision plus personnelle de ce que représente cet investissement à long terme. Laquelle de ces deux Amériques si différentes finalement correspond le mieux aux aspirations profondes de l'investisseur ?
Une bonne question à méditer.